les podcasts de l'IFEP,
l'Institut de l'expérience patient,
animé par Jessica Falour.
Avec nous pour cette série de podcasts, la voix de l'expérience patient, des personnalités inspirantes et des professionnels investis qui ont tous à cœur d'humaniser les soins et de tout mettre en œuvre pour assurer aux patients, malgré parfois un contexte médical difficile, la meilleure expérience possible au sein de leur établissement, la fameuse expérience patient. Alain Toledano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cancérologue, fondateur de l'Institut Raphaël aux portes de Paris. Vous investissez énormément, depuis longtemps, pour l'accompagnement des patients. Ça fait des années qu'on sait toute l'importance que vous portez à la prise en charge des patients, une prise en charge plus globale. C'est donc aussi ça, l'expérience patient.
Oui, tout à fait. La médecine doit se faire pour le patient, autour du patient, bien qu'il y ait un côté technique. C'est important qu'on revienne à nos racines.
Humaniser le système de soins en pratique, ça veut dire quoi ?
Ça peut vouloir dire plein de choses. Mais c'est vrai que la médecine aujourd'hui, cet art de soigner, c'est finalement prévenir, soulager, guérir des maladies, des blessures, des infirmités. Avec des mots on soigne, avec des mots on tue. Et on l'oublie trop souvent. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle de haute technicité, on a l'impression d'être dans le cadre médical. Mais on exclut souvent le patient de cette réflexion qui se sent mis de côté. Et aujourd'hui, à la journée expérience patient, c'est important qu'on le remette à l'honneur.
Personnaliser la prise en charge, c'est la clé de voûte de l'expérience patient.
Oui, les patients endurent, les patients souffrent. Les patients sont parfois mécontents, mais se sentent quand même en France entourés dans un système social et solidaire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'arriver à leur redonner la parole pour qu'ils puissent s'autonomiser, alléger leurs souffrances, mais aussi pour qu'on puisse transformer notre système de santé, qui est un bon système, et on va en discuter, qui est perfectible.
En moyenne, selon des chercheurs de l'Université Brown aux États-Unis, les patients retiennent 49% des informations à l'issue d'un rendez-vous médical. J'imagine que ça a un impact important pour le patient. À quel niveau particulièrement ?
Ce qui est important, c'est dans une consultation, soignant-soigné, c'est ce qu'on dit, mais c'est aussi le non-dit. C'est la présence qu'on va avoir en consultation. C'est l'attention qu'on va porter au patient. C'est l'intention qu'on a de le prendre en charge. Et tout ça, ça fait partie de ces démarques de considération et ce qui va faire fabriquer la relation de confiance. Donc on voit bien déjà qu'on part sur une relation asymétrique où le patient dépose beaucoup plus que le médecin. Il y a une relation soignant-soigné qui était autrefois en tout cas basée sur le savoir. C'est moins vrai à l'époque d'Internet. Donc aujourd'hui, il est très important de redéfinir le cadre thérapeutique et de bien se rendre compte qu'il n'y a pas que ce qu'on dit qui est important, mais il y a la posture, ce qu'on véhicule, et la manière avec laquelle on va appréhender cette relation singulière.
Et tout ça peut avoir un impact, alors pour le coup, positif, que ce soit par rapport à l'adhésion au traitement, la capacité, j'imagine, à prendre des bonnes décisions aussi pour le patient, que vous impliquez d'ailleurs de plus en plus dans la décision de sa propre prise en charge.
Exactement. On prend un exemple simple. Aujourd'hui, on a discuté avec des patientes qui ont été traitées pour des cancers du sein. Alors, grâce au dépistage mis en place en France, vous savez qu'un cancer du sein diagnostiqué précocement guérit dans 95% des cas à 10 ans. Bon. Alors, le traitement va consister à opérer le sein, le conserver, que ce soit joli tant qu'à faire si possible, et ensuite donner des comprimés d'hormonothérapie dans la plupart des cas, parce que le cancer du sein est sensible aux hormones. Bien, vous savez que près de 40% des femmes ne sont pas compliantes au traitement d'hormonothérapie. Elles ne le prennent pas. Et la plupart du temps, elles ne le disent pas au médecin. Donc elles se mettent en danger, d'une part. Et puis, finalement, cette relation médecin-patient, on se demande, mais est-ce qu'elle est vraiment honnête et authentique ? Et vous savez pourquoi elles ne prennent pas cette hormonothérapie ?
C'est la question que j'allais vous poser.
Voilà, parce que sur la notice, il est écrit qu'on peut prendre du poids. D'une part. Et donc, ce médicament qui est un allié, qui empêche idéalement que la maladie rechute, il devient un ennemi. Parce que l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, c'est une image de reconstruction de soi, de féminité, et on a peur de grossir, on a peur de souffrir. Et le fait que dans nos consultations, on soit avec un ordonnancier des stylos, et qu'on aille vite, finalement, des fois, on n'a pas le temps de regarder la représentation mentale que le patient se fait du traitement. Donc simplement écouter cette volonté de redevenir elle-même qu'à la femme, l'accompagner sur le plan nutritionnel, l'accompagner dans sa féminité, Tout ça, c'est fondamental. Donc la relation, elle doit être basée sur de l'écoute, sur un temps dédié, sur de l'échange, sur un accompagnement. Et puis, c'est vrai, une dame qui n'a pas envie de prendre du poids, alors que la ménopause vient d'arriver, etc., c'est tout à fait compréhensible. Donc avoir des mesures complémentaires d'accompagnement, même non médicamenteuses, de la nutrition, de l'activité physique, des séances de psychologie, de la gestion émotionnelle, tout ça, c'est important. Donc la compliance au traitement nécessite qu'on intègre le patient. C'est pas le médecin tout seul qui va faire de la médecine. C'est le patient qui va adhérer ou pas à la manière dont on le prend en charge.
De quelle façon, au sein de l'Institut Raphaël, vous vous impliquez pour faire sans cesse évoluer, améliorer justement cette expérience patient, le fait que quand on arrive à l'Institut Raphaël, on se sent bien, tout simplement. Beaucoup d'activités, beaucoup de bienveillance. Parlez-moi justement de ce que les gens qui ne connaissent pas encore l'Institut Raphaël pourraient découvrir en vous écoutant.
Raphaël, c'est l'ange de la guérison. On est parti d'un constat, et tous le même, que la santé, c'est pas uniquement l'absence de maladie. Est-ce que si je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous êtes en bonne santé, vous allez répondre oui, non. C'est pas seulement le silence des organes, mais que la santé, elle va devoir prendre en considération et la santé psychologique, et la santé émotionnelle, et la santé sociale, et la santé environnementale, et même la santé sexuelle. Parce qu'en fait, trouver des équilibres sexuels, ou mieux, un épanouissement sexuel, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de discuter, que ce soit à l'école, dans la vie en général, et encore moins dans les consultations médicales.
Et vous en parlez avec vos patients ?
Alors, on a une équipe. En fait, nous, on cohabite.
Ouais.
Les médecins, les acteurs paramédicaux, et autour du patient, on va co-construire avec lui un parcours. Et un parcours d'accompagnement qui est coordonné, qui va être orienté vers ce dont on a parlé. La nutrition, bien sûr, c'est fondamental. C'est aussi culturel. Les émotions, parce qu'on vit avec. L'activité physique, le bien-être. Et le retour à l'emploi. Quand on est encore en âge de travailler, vous savez qu'une personne sur trois quitte ou perd son travail dans les 2 ans après le diagnostic. Et des fois, c'est parce que l'entreprise qui cultive la rentabilité, la performance, elle ne s'est pas réintégrée. Ces personnes qui ont eu un cancer, qui l'ont vécu, qui ont une force, mais on ne les regarde pas comme des gens forts. Donc c'est important de passer de cette médecine centrée sur la maladie actuelle à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Et c'est comme ça qu'on considère le patient, c'est en le mettant au centre.
Comment voyez-vous l'avenir de l'expérience patient en France ? Quelle serait idéalement l'action qui ferait concrètement avancer les choses ?
Il faut qu'on pense qualitatif et pas uniquement quantitatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous vous demandez est-ce qu'un médicament est efficace, on le compare à un médicament de référence et on quantifie le bénéfice, en plus ou en moins. Alors que quand on se demande comment on va faire pour aider quelqu'un, pourquoi quelqu'un est traumatisé, pourquoi il a peur, eh bien à ce moment-là, il va falloir rentrer dans le détail de sa vie, il va falloir évaluer les choses qualitativement, pas uniquement le quantifier. Et donc, cette qualité dans l'accompagnement, dans certaines entreprises, ce qui n'est pas un gros mot, dans l'économie de marché, on se soucie du client, on l'accompagne, on lui fait vivre une expérience. Pour ne pas qu'il endure, pour ne pas qu'il souffre. Alors qu'on a 20 millions de patients qui passent aux urgences chaque année, 12 millions qui sont hospitalisés. Eh bien des fois on ne se soucie pas de ce que pense le patient. Alors que le patient c'est entre guillemets le consommateur du système de santé. Donc un système de santé qui ne regarde pas son client qui est le patient, un système de santé qui ne se regarde pas, qui ne se transformera pas. Et on ne peut pas continuer à avoir un système de santé magnifique en France, 260 milliards d'euros, 3 000 hôpitaux, 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes, 225 000 médecins. Malgré tout, les usagers ne sont pas complètement contents. Malgré tout, les médecins, les soignants sont frustrés. Il y a des tensions administratives, des rigidités organisationnelles. Donc pour transformer le système de santé, il faut changer le paradigme. Regarder le patient et pas uniquement la maladie. Et donc, si on veut regarder le patient, qui est-ce qu'on va écouter en premier ? C'est le patient. Donc soigner les temps d'attente, par exemple. C'est incroyable ce qui se passe dans une salle d'attente. Alors il y a des gens qui créent des amitiés.
Ah oui.
Il y en a beaucoup qui récupèrent le stress des autres, qui attendent des heures. Donc il y a cette espèce, on assujettit les gens, finalement, on les soumet dans le système de santé. On leur enlève leur autonomie. Ils deviennent passifs. On récupère leur corps, on leur laisse leur esprit se dissocier. Les gens souffrent de tout cela. La première étape de la considération, c'est l'écoute, c'est la relation d'égal à égal, c'est arrêter de penser à une relation de supériorité entre le sachant et le non-sachant. C'est plus vrai. Donc il faut changer la culture.
Parlez-moi de la chaire de santé intégrative dont vous êtes le directeur.
Alors aujourd'hui, comme il était important de faire autre chose que de devenir un super expert, parce qu'on a plein de super experts en France et c'est tant mieux. On se différencie, c'est notre identité sociale, chacun doit brandir une étiquette, un drapeau. Mais en santé, compartimenter, c'est être inefficace. Donc le mouvement inverse de la différenciation, c'est un mouvement qu'on appelle l'intégration. Synthétiser, rendre cohérent. Donc l'intégration de toutes les dimensions de la santé, l'intégration de tous les acteurs médicaux et paramédicaux, avec une vision de cette santé globale, c'est la santé intégrative. À l'Institut Raphaël, on a offert 45 000 soins évalués en 3 ans à 3 000 nouveaux patients. On a pu montrer qu'en accompagnant de façon globale, on diminuait la dépression, on diminuait le sentiment d'isolement, on diminuait les troubles du sommeil. Bien aujourd'hui, pour essaimer ces valeurs de la santé intégrative, on a ouvert une chaire en santé intégrative au Conservatoire National des Arts et Métiers. Promouvoir la recherche, créer des nouveaux métiers, la coordination de parcours santé. Et puis aider chaque acteur de la santé, les arts thérapeutes, il y en a plusieurs, musicothérapie, dramathérapie par le théâtre, arts plastiques. Donc aider tous ces métiers, les médecines traditionnelles, à intégrer le système de santé, à étudier, à créer des liens et à travailler de façon transdisciplinaire. Et cette chaire, elle va nous aider à promouvoir la santé, pas uniquement la médecine telle qu'on la pratique, mais la santé de façon globale, qui commence même à la prévention, parce que c'est un sujet, la prévention.
Et donc en pratique, vous vous réunissez entre spécialistes, patients, experts aussi, j'imagine. Qui fait partie de cette chaire ?
Alors en pratique, tous les acteurs de la santé sont partie prenante. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites santé, souvent l'imaginaire pense à l'hôpital. Mais quand vous dites énergie,
oui.
Ce n'est pas la locomotive à charbon, ni les éoliennes,
oui, c'est beaucoup
ni
plus
les centrales
large,
nucléaires.
Bien sûr, ouais.
Donc la santé, c'est plus large que l'hôpital, c'est plus large que la maladie.
Ouais.
Donc il faut intégrer tous ces acteurs, ces institutionnels, ces associations de patients, l'État, les académiques et que sais-je, tout le monde. Aujourd'hui, on veut promouvoir une vision de la santé intégrative pour transformer un système de santé, le rendre performant, plus économique, parce que aujourd'hui, quand on prescrit les médicaments, c'est-à-dire dans 90% de nos consultations, on jette une boîte sur deux à la poubelle, on jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. On pourrait tout à fait financer le développement de la qualité en gaspillant moins et en se préoccupant de l'autre. C'est une question de valeur, ce n'est pas qu'une question de moyens.
Quelles sont vos envies, vos projets à vous, Alain Toledano, en ce moment ? Je sais que vous êtes sur plein de choses à la fois.
Je crois que le projet d'épanouissement personnel, pour nous tous, dépend d'un projet d'épanouissement collectif. Donc, moi qui ai la chance d'avoir la confiance d'équipes de soins, je dis toujours qu'en fait, il faut qu'on arrive à nous accorder, à créer une musique ensemble, pour aider l'autre. On a un devoir d'accueil, on a un devoir de non-abandon. Notre travail sur la résilience, comme le disait Boris Cyrulnik, la capacité à rebondir après un traumatisme, il est médié par le sens qu'on va donner aux choses, par les affects, par l'interaction avec l'environnement. Je crois qu'on a un devoir on a de la chance en France, on a un devoir dans cette économie prospère de penser aux autres, de pouvoir penser aux autres, de pouvoir être solidaire. L'argent, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. On n'est pas obligé de tout quantifier, de rendre mercantile un système de santé. Il faut réinstaller une humanisation, réinstaller une solidarité, promouvoir des valeurs et évaluer. Parce qu'aujourd'hui, on peut payer pendant 20 ans un antidépresseur aux 4 millions de gens qui ont ou qui ont eu un cancer. On le rembourse, mais pas une séance de psychologue. Donc on voit bien qu'on marche sur la tête.
Oui, il y a un décalage.
Parce qu'on a oublié de créer de la valeur. Donc il faut accompagner tous ces nouveaux métiers, tous ceux qui sont bienveillants, qui ont envie de s'investir, mais qui n'ont pas la chance que nous, les médecins, avons dans ce système de santé. Alors travailler ensemble, de façon transdisciplinaire, avec une intelligence collective, comme on le fait en entreprise, que la santé, ce soit un service. C'est ni un dû, ni un devoir, ni une orientation de la manière dont on va gérer de la maladie. C'est bien plus que ça, c'est un monde à réformer.
Quand on s'intéresse au parcours des acteurs de santé, on peut observer qu'on n'arrive pas dans ce secteur par hasard. Qu'est-ce qui vous y a mené, vous ?
On a toujours besoin de se positionner en fonction de sa culture, ses envies. Moi, personnellement, c'est la culture de l'altérité et de l'autre. C'est l'éthique d'autrui, chère à Emmanuel Lévinas. En fait, on a un devoir vis-à-vis de l'autre fragile. Quand vous avez pris conscience, finalement, que vous êtes gâté par la vie, est-ce que vous allez continuer à poursuivre des objectifs personnels ou matériels ? Finalement, on n'est pas qu'un corps, on est aussi un esprit. La vision spirituelle de la vie, elle passe par un questionnement de sa place et de la place parmi ses congénères. Et donc, vous savez, la médecine, elle a toujours combattu deux choses, la superstition et l'héritage des anciens. Donc, autrement dit, la religion et la tradition. Mais en faisant ça, elle est devenue très scientifique, technique, elle s'est déshumanisée et elle s'est déspiritualisée. Justement pour scinder le spirituel et la science. Alors qu'en fait, on est des êtres affectifs, on est des êtres spirituels, qu'on soit laïque ou religieux d'ailleurs. Et donc on a besoin que la médecine se réapproprie des valeurs humaines. C'est Emmanuel Kant qui disait « La médecine est un art et non une science exacte et rationnelle. » Il faut qu'on assume l'art dans la médecine, même si on a besoin de science, de méthodologie, de preuves, pour que la solidarité puisse faire avancer nos systèmes de soins.
Avant de se quitter, un mot sur cette journée annuelle de l'expérience patient.
Il faut soutenir absolument toutes les initiatives qui repositionnent le patient au centre d'un système de santé, qui valorisent l'engagement et le devoir moral compris tous ces acteurs, qui n'hésitent pas à se mettre à nu, parler de leur fragilité, en faire une force, avec tout ce que ça peut inclure comme potentiel d'essaimage, de vision et finalement de questionnement de nos instances administratives qui sont belles mais qui ont besoin d'un nouveau chemin pour réécrire avec tous les soignants et les patients un nouveau système de santé.
Vous êtes un magnifique, merveilleux chef d'orchestre en tout cas pour fédérer aussi j'imagine vos équipes, les patients et tous vos partenaires au quotidien. Félicitations docteur Alain Toledano. Je rappelle que vous êtes cancérologue, fondateur de l'Institut Raphaël juste à côté de Paris et directeur de la chaire de santé intégrative. À bientôt. Merci à vous.
Merci.
Les podcasts de l'IFEP pour suivre la voie de l'expérience patient.